Préface du pèlerinage d'un nommé chrétien. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le pèlerinage d'un nommé chrétien. Écrit sous l'allégorie d'un songe, par John Bunyan. Traduit par Robert Etienne. Je les ai instruits par un grand nombre de visions. Osée, chapitre 12, verset 10. Approbation. J'ai lu, par ordre de Monseigneur le Chancelier, un manuscrit qui a pour titre « Le pèlerinage d'un nommé chrétien, écrit en allégorie, etc. » Cet ouvrage est orthodoxe et animé de l'esprit évangélique. À Paris, ce 16 de juillet 1772. Signé Genet, docteur de la maison et société de Sorbonne. Préface du traducteur. Lorsqu'il paraît chez une nation étrangère, quelques livres frivoles, ou quelques romans licencieux, on ne manque point d'écrivains qui s'empressent de prostituer leurs plumes et leurs talents pour faire connaître ces ouvrages et en répandre le poison parmi nous. Il n'en est pas de même des livres de piété, et de ceux qui peuvent rendre les hommes meilleurs. Il semble que nos écrivains regardent ces sortes d'ouvrages au-dessous d'eux, et comme peu propres à leur faire un certain honneur dans la littérature. Ah, s'ils étaient véritablement chrétiens! Ils prendraient sans doute d'autres sentiments et s'estimeraient trop heureux de pouvoir travailler pour l'édification et le salut de leurs frères. Fasse le ciel que le pèlerinage d'un nommé chrétien, que l'on publie aujourd'hui, ait le bonheur de contribuer à remplir ses objets. Cet ouvrage a été composé par le sieur Bunyan, anglais, il y a déjà un grand nombre d'années. Dès qu'il parut, il fut enlevé avec la plus grande rapidité, et son succès se soutient toujours. C'est d'après la 28e édition publiée en 1751 que cette traduction a été faite. On ne s'y est permis que de légers changements et le retranchement de quelques longueurs, mais on a tâché de conserver autant que l'on a pu l'admirable simplicité de l'original. On ne publie pour le présent que la première partie de l'ouvrage de M. Bunyan qui contient le pèlerinage de chrétiens. Si elle est goûtée, on donnera la seconde partie qui contient le pèlerinage de Christiana, ou de la femme chrétienne. Un livre tel que le pèlerinage de chrétiens, qui jouit depuis si longtemps des suffrages d'une nation judicieuse et éclairée, doit avoir un mérite réel. On ne croit pas pouvoir le faire mieux connaître qu'en mettant sous les yeux la préface imprimée à la tête de l'édition de 1751. Préface de l'éditeur anglais. La multiplicité des éditions de cet ouvrage prouve combien il est goûté. L'allégorie, ou la parabole, est un genre d'écrire qui, dans tous les temps, a été regardé par les hommes du plus grand génie comme le plus utile et le plus instructif, par la raison sans doute que ce genre présente la vertu sous une forme agréable et qu'il est attrayant non seulement pour la jeunesse, mais même pour les personnes les plus mûres. Platon, surnommé le divin, et Socrate, que l'oracle déclara être l'homme le plus sage, faisaient un cas tout particulier de cette manière d'écrire. Mais qu'est-il besoin de recourir à des autorités profanes? Quand nous voyons les écrivains sacrés donner les vérités les plus grandes et les plus importantes pour les hommes, sous une enveloppe et sous des figures. Vraisemblablement, ils ont pensé que par ce moyen, ces vérités s'insinueraient dans l'esprit avec plus d'adresse et de force. Nathan en sentit toute l'importance lorsqu'il vint annoncer à David la colère d'un dieu irrité. Ce roi, qui avait reçu du ciel les faveurs les plus signalées, s'était oublié au point de commettre les deux plus grands crimes, l'adultère et le meurtre. Si le prophète eût reproché à ce prince son péché, sans apporter de ménagement, il eût pu encourir sa colère et son indignation. Mais il eut recours à une parabole, dont l'effet fut le plus heureux, et le monarque, touché, expia sa faute par son repentir et par ses larmes. Que pouvons-nous dire de plus, sinon que quelqu'un plus grand que Nathan et que tous les prophètes, que quelqu'un à qui le cœur et les affections de l'homme sont connus, Jésus-Christ lui-même, dans le temps de sa vie mortelle, se plaisait à parler en parabole à ceux qu'il daignait instruire. On ne peut donc qu'applaudir à l'idée que M. Bunyan a eue de composer le pèlerinage d'un chrétien comme il l'a fait. C'est une manière simple et naturelle, mais merveilleusement propre à représenter la vie de l'homme, puisque l'homme doit se regarder comme un pèlerin et un étranger sur la terre, ainsi que ses pères l'ont été. M. Bunyan a rempli son plan avec tant de succès que jusqu'à présent, il n'y a rien eu de mieux fait dans ce genre. cet auteur, dans son style, joint à la plus grande simplicité un sentiment qui pénètre et qui touche. L'allégorie est admirablement soutenue. Les transitions sont naturelles, les images fortes, nerveuses et pleines d'âme. On y trouve surtout cet esprit qu'on ne voit répandu que dans les Saintes Écritures. Aussi notre auteur montre-t-il combien il les avait étudiées et combien il en était rempli, puisqu'il ne s'est presque servi que de leur style et qu'il semble se l'être approprié. Les plus simples et les plus grossiers pourront puiser dans cet ouvrage des instructions et y apprendre à devenir meilleurs, et les plus savants y trouveront matière à de sérieuses réflexions. Une des qualités particulières de ce livre, c'est que par la manière dont les choses y sont dites, il attache si agréablement qu'il est difficile de le quitter. Les détails sur les misères et les faiblesses attachées à l'humanité sont si bien représentés dans quelques endroits que l'on y éprouve plus de sensations qu'à la lecture de plusieurs belles pièces de théâtre, malgré la parure et le brillant de l'addiction de ces dernières. Oui, on croit pouvoir avancer qu'il n'y a personne, de quelque état ou de quelque religion qu'il soit, qui puisse lire quelques épisodes, et entre autres le passage de la rivière qui est à la fin, sans se sentir frappé d'une émotion religieuse et d'un tendre sentiment de piété. D'après cet exposé, ne paraîtra-t-il pas étonnant qu'un homme simple et sans études, tel qu'était M. Bunyan, ait pu composer un ouvrage aussi utile et aussi admirable? Mais quoi? Dieu ne se plaît-il pas quelquefois à manifester sa gloire d'une manière éclatante par la bouche même des enfants? Le pauvre et l'ignorant gagnent le ciel, tandis que, pour user les termes mêmes de saint Augustin, les grands du monde et les savants, avec toutes leurs études et leurs sciences, tombent dans l'égarement et se perdent. Tant il est vrai que l'Esprit de Dieu ne connaît point de bornes, et qu'il souffle les salutaires influences de sa grâce où il lui plaît. Fin des préfaces, enregistrée par Ezoa, en Belgique, en juin 2008. Première partie du pèlerinage d'un nommé chrétien. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le pèlerinage d'un nommé chrétien. Écrit sous l'allégorie d'un songe, par John Bunyan. Traduit par Robert Étienne. Première partie. Un jour, après avoir erré dans le désert de ce monde, je me trouvai dans un endroit écarté où j'aperçus un antre. Me sentant fatigué, j'y entrai pour me reposer, et le sommeil vint s'emparer de moi. Comme je dormais, j'eus un songe, et tout à coup, dans ce songe, je vis un homme vêtu de haillons. Il se tenait à une certaine distance de sa maison, dont il paraissait éloigner ses regards. Il avait un livre à la main, et il semblait porter sur son dos un fardeau fort pesant. Pendant que je l'examinais avec attention, je le vis ouvrir son livre et y lire. Et comme il lisait, il se mit à jeter de profonds soupirs. Un grand tremblement le saisit, et ne pouvant se contenir davantage, il jeta un cri lamentable en disant « Que ferai-je ?» Dans cet état, cependant, il retourna dans sa maison. Il s'efforça de prendre sur lui, pour que sa femme et ses enfants ne s'aperçussent pas de son chagrin. Mais il ne put se taire longtemps, parce que sa peine croissait de plus en plus. Il leur ouvrit donc son cœur, et leur parla ainsi. « Ô vous, ma chère femme, et vous, mes chers enfants, que j'aime si tendrement, vous me voyez tout anéanti en moi-même par l'effet d'un fardeau qui m'accable. De plus, je suis informé de bonne part que notre ville sera indubitablement réduite en cendres par le feu du ciel. Dans ce renversement terrible, vous, ma chère femme, et vous, mes chers enfants, ainsi que moi, nous serons tous misérablement ensevelis. Il n'y a qu'un seul chemin, que je ne connais pas encore, qu'il faut prendre pour éviter ce malheur et par lequel nous puissions être sauvés. » À ce discours, ils furent tous dans le plus grand étonnement. Non qu'ils crussent que ce qu'il leur disait fût véritable, car ils pensaient que quelque maladie lui avait troublé l'esprit. Cependant, la nuit approchait, et comme ils espéraient que le repos pourrait le remettre dans son état naturel, ils le pressèrent de se coucher. Mais la nuit ne fut pas plus tranquille pour lui que le jour. Et bien loin de dormir, il la passa dans les soupirs et dans les larmes. Aussi, quand le jour parut, et qu'ils lui demandèrent comment il se trouvait, il leur répondit « De plus en plus mal ». Il voulut pour lors recommencer à leur parler sur les sujets dont il avait été question la veille, mais leur cœur s'endurcit de plus en plus. Pour tâcher de le tirer de cet état et de le guérir, ils usaient de toutes sortes de moyens. Tantôt ils employaient ceux de la douceur, tantôt ils prenaient les manières les plus rudes. Quelquefois, ils le raillaient ou ils le querellaient. D'autres fois, ils voulaient l'abandonner totalement. L'homme, voyant qu'il ne pouvait rien gagner sur eux, se retirait dans sa chambre, soit pour prier pour eux, soit pour gémir sur sa propre misère. Il lui arrivait encore d'aller tout seul dans la campagne, et là, où il lisait, où il était en prière, et pendant quelques jours, il passa son temps dans ces différents exercices. Un jour qu'il se promenait dans les champs, je le vis qui lisait dans son livre, suivant sa coutume. Son esprit paraissait fort agité, et comme il lisait, il s'écria, ainsi qu'il l'avait déjà fait, « Que ferais-je pour être sauvé ?» Alors, il se mit à examiner différents chemins, et il paraissait désirer d'en prendre un pour s'en aller. Mais il s'arrêta, et je compris que son incertitude venait de ce qu'il ne savait quel chemin prendre. Pendant qu'il était dans cette perplexité, j'aperçus trois personnages qui paraissaient venir à lui. L'un se nommait Évangéliste, l'autre Tradition divine, sa sœur, et la troisième Église, leur interprète, tous trois enfants de Dieu. Évangéliste l'aborda et lui demanda « Pourquoi criez-vous ? » « C'est, lui répondit cet homme, que je vois par ce livre que j'ai à la main, que je suis condamné à mourir, et qu'après ma mort, je dois être jugé. La première de ces choses m'afflige d'autant plus que je ne suis pas préparé à la seconde, qui est le jugement. « Pourquoi, lui dit Évangéliste, ne vouloir pas mourir, puisque la vie est accompagnée de tant de maux ?» L'homme lui répondit « C'est que je crains que ce fardeau, qui est sur mes épaules, ne me fasse tomber plus bas que le tombeau et ne me précipite dans l'enfer. Or, monsieur, si je me sens hors d'état de paraître devant le juge, que dois-je présumer de la sentence qu'il prononcera ? Cette pensée me remplit de terreur, et c'est ce qui me fait jeter des cris. » Évangéliste lui dit, « Mais si vous êtes persuadé que c'est là le sort qui vous attend, pourquoi vous arrêtez-vous encore ? » Il lui répondit, « C'est que j'ignore par quel endroit il faut aller. » Alors Évangéliste lui donna un rouleau de parchemin sur lequel était écrit « Fuis de la colère à venir ». L'homme le lut, et regardant Évangéliste attentivement, il lui demanda « Où faut-il fuir ?» Évangéliste lui dit, en lui montrant du doigt une fort grande plaine, « Voyez-vous là-bas cette petite porte ?»« Non, je ne l'aperçois point. » « Voyez-vous du moins cette lumière éclatante ?»« Je crois l'apercevoir. »« Eh bien, gardez ce point de vue, et allez-y tout droit, jusqu'à ce que vous voyez la porte, à laquelle vous frapperez, et là, on vous dira ce que vous aurez à faire. » Je vis dans mon songe qu'à ces paroles, l'homme prit le chemin indiqué et se mit à courir. Il n'était pas encore bien éloigné de sa maison, quand sa femme et ses enfants, s'apercevant qu'il s'en allait, lui crièrent de retourner. Mais l'homme mit ses doigts dans ses oreilles et n'en alla que plus vite en criant la vie éternelle. Ainsi, il ne regarda point derrière et continua son chemin en courant au milieu de la plaine. Ses voisins et ses connaissances, ayant su cette nouvelle, sortirent pour être témoins de sa fuite, et comme il était encore à portée de les entendre, quelques-uns lui faisaient des menaces, d'autres le tournaient en raillerie, d'autres lui criaient de retourner. Parmi ces derniers, il y en eut deux qui entreprirent de le faire revenir par force. L'un se nommait l'Endurci, et l'autre Flexible. quoiqu'il fût déjà éloigné d'eux d'une distance assez considérable, ils résolurent néanmoins de le poursuivre, et en peu de temps, ils l'atteignirent. « Mes voisins, leur dit l'homme, par quel motif venez-vous me trouver ? Nous voulons vous engager de revenir avec nous. C'est ce que je ne ferai point. Vous demeurez dans la cité de destruction. Oui, je sais qu'elle doit éprouver ce triste sort, et si vous y mourez, vous tomberez tôt ou tard plus bas que le tombeau, dans un endroit terrible où un feu de soufre brûle sans cesse. Faites mieux, mes chers voisins, et venez avec moi. » « Quoi ? Dit l'endurci. Nous abandonnerions nos amis et nos connaissances ? Oui, dit Chrétien. C'était le nom de l'homme. Parce que tout ce que vous laisserez n'est pas digne d'être comparé avec la possession de la moindre partie de ce que je cherche. Et si vous voulez ne me point quitter, vous serez traités ainsi que moi, et vous ne manquerez de rien, car où je vais, tout se trouve en abondance. Venez et éprouvez la vérité de ce que j'avance. » L'endurci. Il faut que les choses après lesquelles vous allez soient bien merveilleuses, puisque vous abandonnez tout le monde pour les obtenir. Chrétien. Je cherche un héritage pur, incorruptible, et qui ne passera jamais. C'est dans le ciel qu'est cet héritage. Là, il est en sûreté, et il ne doit être accordé dans le temps prescrit qu'à ceux qui l'auront cherché avec soin. Ce que je vous dis est dans mon livre. Tenez, lisez-le. L'endurci. Vous vous moquez avec votre livre. Voyez, voulez-vous retourner avec nous ? Il faut vous décider, oui ou non. Chrétien. Non, certes. Et puisque j'ai la main à la charrue, je ne veux point regarder derrière moi. L'endurci. Venez donc, mon voisin flexible. Retournons sans lui. C'est un fou qui croit en savoir plus que des gens raisonnables. Flexible. Ne tenez point un pareil propos. Si ce que Chrétien dit est véritable, les biens qu'il cherche sont préférables aux nôtres. Je me sens du penchant à le suivre. L'endurci. Quoi ? Vous voulez être plus déraisonnable que lui ? Suivez mon conseil et retournez. Qui sait où un pareil homme vous mènera ? Retournez, vous dis-je, et soyez sage. Chrétien. Eh non, ne dissuadez point le voisin flexible. Venez plutôt avec lui. Vous trouverez tous les biens que je vous ai dit, et même davantage. Si vous ne me croyez pas, prenez ce livre, lisez-le. Et pour juger de la vérité de ce qu'il contient, considérez que le tout est confirmé par le sang de celui qui l'a fait. Flexible. Je commence à me rendre, et je me décide d'aller avec ce brave homme. Mais vous, mon cher Chrétien, connaissez-vous bien le chemin qui mène à cette place si désirable ? Chrétien. Un personnage nommé Évangéliste m'a dit qu'il fallait gagner cette petite porte qui est devant nous, et que là, on me donnerait des instructions touchant notre route. Flexible. Allons, mon voisin, mettons-nous en chemin, et allons-y tous ensemble. L'endurci. Oh, pour ce qui me regarde, je veux m'en retourner chez moi, et ne pas accompagner des insensés qui se font de pareilles chimères. Je vis alors dans mon songe que quand l'endurci les eut quittés, Chrétien et Flexible s'avancèrent dans la plaine et commencèrent à s'entretenir de cette manière. Chrétien. Je suis bien charmé, mon voisin, de vous avoir persuadé de venir avec moi. Si l'endurci avait été touché, ainsi que moi, de la force et de la terreur de ce qui doit arriver un jour, sans doute, il ne nous eût point quittés comme il a fait. Flexible. Puisque nous ne sommes plus que nous deux, dites-moi présentement quels sont les grands biens que vous espérez avoir, et dans quel endroit nous allons pour les posséder. Chrétien. Je puis mieux les concevoir dans mon esprit que je ne puis trouver des paroles pour les dépeindre. Mais puisque vous désirez les connaître, je vous dirai ce qui en est écrit dans mon livre. Flexible. Pensez-vous que les paroles de votre livre sont bien véritables et bien sûres ? Chrétien. Oui, certes, je le pense, car il est fait par quelqu'un qui ne peut mentir. Flexible. Dites-moi donc quels peuvent être ces biens. Chrétien. L'endroit où j'espère parvenir est un royaume qui ne doit point avoir de fin, et nous posséderons une vie éternelle qui nous donnera la jouissance de ce royaume pour toujours. Là, des couronnes de gloire nous attendent, et nous serons revêtus d'ornements qui nous rendront aussi éclatants que le soleil. » Flexible. « Ah, mon cher voisin, ce récit me ravit. Et quelle compagnie y aurons-nous ? » Chrétien. « Arrivés dans ce royaume, nous ne serons plus dans la douleur et les gémissements, car celui qui y règne essuiera les larmes de nos yeux. Nous y serons avec les chérubins et les séraphins, créatures dont l'aspect est éblouissant. Nous y trouverons aussi des milliers d'autres personnes qui y sont parvenues avant nous. Aucun d'eux n'a de défaut, mais tous sont remplis d'amour et de sainteté, chacun marchant dans la présence de Dieu et se tenant devant lui pour lui plaire à jamais. Nous y verrons des vieillards avec des couronnes d'or, des vierges pures chantant les cantiques de louange avec des harpes brillantes, des hommes qui dans ce monde ont été mis en pièces, brûlés, manger des bêtes pour l'amour qu'ils ont porté au maître de ce séjour, et qui tous, revêtus des ornements de l'immortalité, jouissent présentement du plus grand bonheur. Flexible. Ce que vous me dites me transporte. Que faut-il faire pour jouir d'une semblable félicité ? Chrétien. Le Seigneur, qui est le maître de ce royaume, l'a mis dans ce livre. On y voit que si nous voulons véritablement avoir ses biens, il nous les accordera libéralement. Flexible. Je suis ravi, mon cher compagnon, d'avoir entendu le récit de ces merveilles. Que tardons-nous? Allons, doublons le pas. Chrétien. Je ne puis aller aussi vite que je le désirerais, à cause du fardeau dont je suis chargé. Je vis dans mon songe que, comme ils finissaient leur entretien, ils arrivèrent à une grande fondrière bourbeuse qui était au milieu de la plaine. Comme ils marchaient sans y prendre garde, ils y tombèrent tous les deux, et s'y étant roulés pendant quelque temps, ils se couvrirent d'ordures et de boue. Chrétien même, à cause du poids de son fardeau, semblait s'y enfoncer de plus en plus. « Ah, mon voisin Chrétien ! S'écria Flexible. « Où sommes-nous ? » En vérité, dit Chrétien, je ne le sais pas. Cette réponse offensa Flexible, qui dit aigrement à son camarade, « Est-ce là le bonheur que vous m'aviez dit devoir toujours nous accompagner ? Si nous avons une si mauvaise réussite dès le commencement de notre voyage, que devons-nous attendre jusqu'à ce que nous soyons à la fin ? Que je puisse me tirer de ce mauvais pas, et vous posséderez tout seul et sans moi ce pays enchanté. » Alors, il se donna deux ou trois efforts violents et se retira du bourbier par le côté qui regardait sa propre maison. Puis il s'en alla, et Chrétien ne le revit plus. Cependant, Chrétien était resté seul à se débattre dans la fondrière du découragement. Malgré l'embarras dans lequel il se trouvait, il s'efforçait de gagner le bord de la fondrière qui était le plus éloigné de sa maison et qu'il approchait de la petite porte. Quelque effort qu'il fît, il ne pouvait se tirer de ce mauvais pas à cause du fardeau qu'il avait sur le dos. Mais j'aperçus qu'un homme, appelé du secours, vint à lui et lui demanda ce qu'il faisait là. Chrétien. Monsieur, un personnage nommé Évangéliste m'a recommandé de prendre ce chemin qui conduit à la porte qui est là-bas si je voulais échapper à la colère à venir. Et comme j'y allais, je suis tombé dans cet endroit. Du secours. Pourquoi ne preniez-vous pas garde où vous posiez les pieds ? Chrétien. La peur m'avait tellement saisi que j'ai pris le plus court chemin et j'y suis tombé. Du secours. Donnez-moi la main. Chrétien la lui ayant donnée, Du secours le tira de ce pas dangereux, et l'ayant mis sur un terrain où il n'y avait rien à craindre, il lui recommanda d'aller par ce chemin et d'être plus circonspect. Fin de la première partie. Enregistré par Ezoa, en Belgique, en juin 2008.
Deuxième partie du pèlerinage d'un nommé Chrétien. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le pèlerinage d'un nommé Chrétien, écrit sous l'allégorie d'un songe, par John Bunyan, traduit par Robert Etienne. Deuxième partie. Chrétien reprit donc seul son chemin, et comme il marchait, il aperçut une personne qui traversait la campagne et qui venaient à lui. Ils se rencontrèrent précisément dans l'endroit où leurs routes se croisaient. Cette personne se nommait Sage Mondain. Sa demeure est dans la ville de Politique Charnelle, ville très grande et voisine de celle d'où Chrétien était parti. Voyant la marche laborieuse et les pleurs de Chrétien, et entendant ses soupirs, il se mit à lier conversation avec lui. Sage Mondain, qu'avez-vous donc, monsieur le voyageur, et où allez-vous ainsi avec ce fardeau? Chrétien, c'est bien effectivement un fardeau que je porte, pauvre créature que je suis, et puisque vous me demandez où je vais, c'est à cette porte qui est là-bas devant moi, parce que je sais qu'on m'y enseignera le moyen d'être délivré du poids qui m'accable. Sage Mondain, qui peut vous avoir enseigné que ce chemin vous mènerait au but que vous vous proposez? Chrétien, un homme qui m'a paru être un personnage très respectable. Son nom, autant que je me le rappelle, est Évangéliste. Sage Mondain, ah ciel, quel homme vous aviez trouvé! Il n'y a pas de chemin plus dangereux ni plus pénible que celui qu'il vous a enseigné. Et c'est ce que vous trouverez, si vous suivez son conseil. Vous en avez déjà éprouvé quelque chose, car j'aperçois qu'il y a sur vous des ordures de la fondrière du découragement, et cependant ce mauvais pas n'est que le commencement des peines qui attendent ceux qui prennent ce chemin. Je suis plus âgé que vous et plus instruit. Or, je vous préviens que vous ne rencontrerez dans la route que vous avez prise que fatigues et que peines, des périls, des glaives, des lions, des monstres, des ténèbres, en un mot, la mort. Et que sais-je, quelle mort ? Ces choses sont certaines, puisqu'elles ont été confirmées par plusieurs témoignages. Comment donc un homme oserait-il s'y jeter sans précaution, en s'en rapportant à étrangers ? Chrétien. Ah, monsieur, c'est que le fardeau qui m'accable est plus terrible pour moi que tous les dangers dont vous me parlez. Non, je ne me soucie point des périls que je puis trouver dans le chemin, et je crois que je les affronterai tous, pourvu qu'à ce prix, je puisse être délivré de mon fardeau. Sage Mondain. Mais pourquoi voulez-vous prendre ce chemin pour chercher à vous soulager, voyant tous les risques que vous pouvez y courir, tandis que je pourrais vous montrer le moyen d'obtenir ce que vous désirez, sans courir les périls que vous trouverez dans le chemin où vous êtes? Oui, le remède ne dépend que de vous. J'ajouterai qu'au lieu de danger, vous n'y aurez que toutes sortes de sûretés, de contentements et de plaisirs. Chrétien, je vous prie, monsieur, faites-moi part de ce secret. Sage Mondain, vous voyez là-bas un village que l'on nomme Moralité. Là demeure un homme appelé De la Loi, homme fort judicieux, et qui a la réputation de s'entendre parfaitement à ôter de dessus les épaules des hommes des fardeaux tels que le vôtre. Allez le trouver, et vous ne tarderez pas à être soulagé, je vous en donne ma parole. Alors Chrétien fut quelque temps à délibérer, et la conclusion fut qu'il se dit à lui-même, « Si ce que ce monsieur raconte est véritable, mon parti le plus sage est de suivre son avis. » Il lui demanda donc, « Quel est, monsieur, mon chemin pour aller à la maison de cet homme que vous dites si habile ?» Sage Mondain, « Voyez-vous là cette montagne ?» Chrétien, « Oui, très bien. » Sage Mondain, « Allez par cette hauteur, et la première maison que vous trouverez, c'est la sienne. » Ainsi, Chrétien quitta son chemin pour aller à la maison de Monsieur de la Loi, pensant y trouver du soulagement. Mais comme il gagnait peu à peu la montagne, elle lui parut si escarpée, et le côté qui était proche de lui tellement suspendu, qu'il fut retenu d'aller plus loin, dans la crainte que la montagne ne lui tombât sur la tête. Il s'arrêta donc, ne sachant quel parti prendre. Son fardeau même lui paraissait beaucoup plus pesant que quand il était dans l'autre chemin. Et des flammes de feu, étant venues à sortir de la montagne, la frayeur d'en être brûlé le rendit tout transi, et une sueur froide se répandit sur tout son corps. Il commença pour lors à se repentir d'avoir suivi le conseil de Sage Mondain, et précisément, il aperçut dans cet instant Évangéliste qui venait à sa rencontre. À sa vue, Chrétien commença à rougir de honte. Évangéliste cependant l'aborda, et jetant sur lui un regard sévère et effrayant, « Que faites-vous ici, Chrétien ? » lui dit-il. À ces mots, Chrétien ne sut que répondre, et resta sans parole devant lui. Alors Évangéliste lui dit, « N'êtes-vous pas l'homme que j'ai trouvé jetant des cris dans la vallée de destruction ?» Chrétien, « Oui, mon cher monsieur, c'est moi-même. évangéliste, ne vous avais-je pas enseigné le chemin qui mène à cette petite porte ?
Chrétien,
oui, monsieur, vous m'aviez fait cette grâce.
Évangéliste,
comment donc vous êtes-vous si promptement détourné, car vous n'êtes pas dans la bonne voie ?
Chrétien,
j'ai rencontré au sortir de la fondrière du découragement un particulier qui m'a persuadé que je trouverais dans l'endroit qui est devant moi un homme qui m'ôterait mon fardeau. Il m'a séduit par ses belles paroles, mais je vois qu'il m'a trompé, et maintenant je ne sais ce que je dois faire.
Arrêtez un peu, lui dit Évangéliste, que je vous montre la parole du Seigneur.
Chrétien s'arrêta tout tremblant, et Évangéliste lui dit,
voyez à ne pas rejeter celui qui vous parle. Car si on ne peut échapper lorsqu'on rejette celui qui a parlé sur la terre, à plus forte raison n'échappera-t-on pas si l'on se détourne de celui qui parle du haut des cieux. C'est la foi qui fera vivre le juste. Mais si un homme retourne en arrière, le Seigneur ne se plaira pas avec lui. Or, c'est à vous que l'on peut appliquer ces paroles. Vous êtes l'homme qui courez à votre perte. Vous avez commencé à rejeter le conseil du Très-Haut et à ne plus marcher dans le chemin de la paix. Vous êtes sur le bord du précipice et près de vous perdre.
Alors Chrétien tomba aux pieds d'Évangéliste comme un homme mort, en criant « Malheur à moi, car je suis un pécheur !»
Évangéliste, le voyant en cet état, le prit par la main en lui disant « Toute espèce de péché et de blasphème sera pardonnée aux hommes. Ne soyez pas incrédule, mais croyez !»
Chrétien, à ces mots, commença un peu à revivre et se releva, quoiqu'encore tout tremblant.
Évangéliste, reprenant la parole, lui dit « L'homme que vous avez rencontré est un certain sage mondain, à qui l'on a donné ce nom à juste titre, parce qu'il n'a de goût que pour la doctrine du monde. S'il est attaché à cette doctrine comme la meilleure, c'est qu'elle le sauve de la croix. Et son tempérament étant charnel, il cherche à ne pas suivre mes voies, quoique droites. Les conseils de cet homme doivent vous être en horreur, puisqu'il vous a détourné du bon chemin, et vous devez vous détester vous-même pour l'avoir écouté. » Le roi de gloire ne vous a-t-il pas dit que sa croix est préférable à tous les trésors de l'Égypte? Que celui qui veut sauver sa vie la perdra? Que quiconque veut le suivre et ne hait son père, sa mère, sa femme, ses enfants et même sa propre vie ne peut être son disciple? Considérez de plus quel est celui à qui cet homme vous envoyait. Son nom est de la loi. C'est le fils d'un esclave qui est encore lui-même dans l'esclavage. Comment prétendriez-vous qu'il pût vous rendre libre?
Oui, sage mondain vous abusait et vous conduisait à votre perte.
Évangéliste prit le ciel à témoin de la vérité de ce qu'il disait. En même temps, des feux sortirent de la montagne sur laquelle le pauvre chrétien était arrêté. Il en fut saisi de frayeur, et ne voyant que la mort, il se mit à gémir et à se lamenter, maudissant le moment où il avait rencontré sage mondain, et s'appelant mille fois insensé de ce qu'il avait prêté l'oreille à ses conseils. Il était aussi fort honteux de penser que les conseils de cet homme, qui partait de la chair, l'avaient emporté sur lui jusqu'au point de lui faire quitter le droit chemin. Cependant, il vit qu'il ne pouvait rien faire de mieux que de s'adresser encore à Évangéliste, et il lui dit « Monsieur, que pensez-vous? Puis-je encore espérer? Puis-je retourner et gagner la petite porte? Ne dois-je pas craindre d'être rejeté, et ne reviendrai-je pas couvert de honte? Je suis contrite et plein de douleur d'avoir suivi les conseils d'un pareil homme. Mais mon péché, ne peut-il pas être pardonné? »
Évangéliste lui dit, « Votre péché est sans doute très grand. Néanmoins, la personne qui est à cette porte, et qui est pleine de bonne volonté pour les hommes, vous recevra. Seulement, gardez-vous bien de vous détourner encore, à moins que vous ne vouliez périr, car sa colère s'enflamme en un instant. » Alors Chrétien se disposa à retourner, et Évangéliste, après l'avoir embrassé avec bonté, lui souhaita une heureuse réussite. Chrétien partit donc en grande hâte, et ne parla à personne dans le chemin. Si on l'interrogeait, il ne faisait aucune réponse, et il était comme quelqu'un qui se presse de regagner le temps qu'il a perdu. Il ne fut satisfait que quand il fut parvenu à l'endroit où il avait suivi les conseils de sage mondain. Le souvenir de sa faute ne parut lui donner que plus d'ardeur pour continuer sa route. Et enfin, il gagna la petite porte, au-dessus de laquelle était écrit « Frappez, et on vous ouvrira. » Chrétien frappa deux ou trois fois, en disant « Daignez ouvrir à un malheureux qui en est indigne et qui est un rebelle. Si vous m'accordez cette grâce, j'en serai toujours reconnaissant, et je célébrerai à jamais les bontés de mon Dieu. » Au bout de quelques moments, parut un grave personnage nommé Bon Vouloir, qui lui demanda qui il était, d'où il venait, et ce qu'il désirait. « Vous voyez devant vous, lui dit Chrétien, un pauvre pécheur chargé du poids de ses iniquités. Je viens de la cité de destruction, et je désire aller à la montagne de Sion pour éviter la colère à venir. Je sais qu'il faut passer par cette porte pour gagner le chemin qui mène à cette montagne. Pourriez-vous, monsieur, m'y introduire ?»« Je le veux très volontiers, lui dit Bon Vouloir. » Et en disant cela, il lui ouvrit la porte. Comme Chrétien s'arrêtait un peu, l'autre le tira brusquement pour le faire entrer. « Que signifie cette violence ? » dit Chrétien tout étonné. « C'est pour votre avantage que j'en ai agi ainsi, » dit Bon Vouloir. « Sachez qu'à peu de distance de cette porte est un fort château, dont Belzébuth est le commandant. Or, lui et sa suite lancent de ce château des traits sur ceux qui viennent à cette porte, pour tâcher de les percer et de les faire périr avant qu'ils y entrent. » Chrétien entra donc avec une joie mêlée de crainte, à cause du danger qu'il avait couru. Il se reposa pendant quelque temps, et rendit compte à Bon Vouloir des différents événements qui lui étaient arrivés, tels que sa sortie de sa maison, des deux personnes qui avaient couru après lui, de sa chute dans la fondrière du découragement, de la faiblesse qu'il avait eue de suivre les conseils de sages mondains, et de l'heureuse rencontre qu'il avait faite avec d'évangélistes, qu'il avait remis dans le bon chemin, et lui avait procuré de parvenir à la porte désirée. « Nous ne refusons personne, » lui dit Bon Vouloir, « et quoique tous aient fait quelque faute avant de parvenir jusqu'à cet endroit, ils ne sont en aucune manière rejetés dehors. Mais il est temps que je vous montre la route que vous devez suivre. Avancez un peu, regardez devant vous. Voyez-vous ce chemin étroit ? C'est celui que vous devez prendre. Il a été tenu par les patriarches, par les prophètes, par le Christ et par ses disciples. Il est droit et comme tiré au cordeau. Voilà le chemin par où vous devez aller. » Chrétien. Mais n'y a-t-il pas de détour par lesquels un étranger puisse s'égarer ? Bon Vouloir. Oui, il y en a plusieurs qui le bordent. Mais ils sont tortueux et larges. Ce qui vous fera distinguer le bon du mauvais, c'est que le bon est le seul qui soit étroit et en droite ligne. Je vis dans mon songe que Chrétien lui demanda encore s'il ne pouvait pas le soulager de son fardeau, et que Bon Vouloir lui dit « Quant à votre fardeau, il faut que vous le portiez jusqu'à ce que vous soyez arrivé à la place de délivrance. Là, il tombera de lui-même de dessus vos épaules. » Chrétien commença alors à ceindre ses reins et à se disposer à partir, et Bon Vouloir lui ajouta « Lorsque vous serez à quelque distance de cette porte, vous trouverez une maison où demeure un interprète. Frappez-y, et il pourra vous faire voir des choses dont vous tirerez avantage. » Fin de la deuxième partie. Enregistrée par Ezoa, en Belgique, en juin 2008. Troisième partie du pèlerinage d'un nommé Chrétien. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le pèlerinage d'un nommé Chrétien, écrit sous l'allégorie d'un songe par John Bunyan, traduit par Robert Etienne. Troisième partie. Chrétien, ayant donc pris congé de cet homme bienfaisant, qui lui souhaita la bénédiction du ciel, marcha avec ardeur, et ne se ralentit point jusqu'à ce qu'il arrivât à la maison de l'interprète. Il y frappa plusieurs coups. À la fin, quelqu'un répondit et demanda qui était là. « Je suis un voyageur, » dit Chrétien. « Une personne de la connaissance du maître de ce logis m'a recommandé de venir ici, et que je m'en trouverais bien. C'est pourquoi je désirerais lui parler. » Celui qui avait d'abord répondu appela le maître de la maison qui, après quelque temps, vint à Chrétien et lui demanda ce qu'il désirait. Chrétien. « Je suis, monsieur, un homme qui vient de la cité de destruction et qui va à la montagne de Sion. une personne qui est à la porte située à l'entrée de ce chemin, et à qui j'ai parlé, m'a dit que si je m'arrêtais ici, vous pourriez me faire voir des choses très curieuses et qui me seraient de la plus grande utilité dans mon voyage. » L'interprète lui dit, « Entrez, et je vous ferai voir effectivement des choses qui pourront vous être profitables. » Chrétien entra, et après s'être reposé, il désira voir ce qu'on lui avait promis. L'interprète pour lors commanda à un domestique d'allumer un flambeau, et ayant dit à Chrétien de le suivre, il le mena dans une chambre retirée, dont le domestique avait ouvert la porte. Chrétien, jetant les yeux sur la muraille, y vit un tableau suspendu, qui offrait un personnage respectable, et voici comme il était représenté. Il avait les yeux élevés vers le ciel. Il tenait dans sa main le meilleur des livres. La loi de vérité était écrite sur ses lèvres. Le monde était derrière lui. Il semblait plaider pour les hommes, et il portait sur sa tête une couronne d'or. Chrétien demanda ce que signifiait ce tableau. « Celui qu'il représente, dit l'interprète, est un homme établi sur 1000. Il a commencé à engendrer des enfants. Il est encore dans les douleurs de l'enfantement, et il nourrit ses enfants lorsqu'ils sont nés. Vous le voyez les yeux élevés vers le ciel, le meilleur des livres dans sa main, et la loi de vérité écrite sur ses lèvres. C'est pour vous montrer que son œuvre est de faire connaître et de découvrir les choses cachées aux pécheurs. S'il paraît plaider pour les hommes, avoir le monde comme jeté derrière lui, et porter une couronne d'or sur la tête, c'est pour vous faire voir qu'ayant méprisé et dédaigné les choses d'ici-bas, par amour pour le service de son maître, il est sûr que dans le monde à venir, il aura la gloire pour récompense. » L'interprète dit encore à Chrétien, « Je vous ai montré ce premier tableau, parce que l'homme dont vous voyez ici le portrait est le seul que le maître de l'endroit où vous allez est autorisé à être le guide dans toutes les difficultés que vous pourrez rencontrer en chemin. Plus donc vous ferez attention à ce que je vous ai montré et en conserverez le souvenir, moins dans votre voyage vous trouverez de gens qui prétendront vous mettre dans le bon chemin, tandis que celui qu'ils enseignent mène à la mort. » L'interprète prit ensuite Chrétien par la main et le conduisit dans une autre grande chambre qui était pleine de poussière, parce qu'elle n'était pas nettoyée. Ayant resté là quelques moments, l'interprète appela un homme pour la balayer. Ce que cet homme fit, et la poussière commença à voler en telle abondance que Chrétien en fut presque suffoqué. Alors l'interprète dit à une jeune fille qui était là d'apporter de l'eau et d'arroser la chambre. Quand elle l'eut fait, la poussière se dissipa, et la chambre fut très propre. Chrétien, que signifie ceci? L'interprète, cette chambre est le cœur de l'homme qui n'a jamais été sanctifié par la douce rosée de l'Évangile. La poussière désigne le péché originel et la corruption intérieure qui a souillé tous les hommes. Celui qui commence d'abord à nettoyer, c'est la loi. Mais celle qui apporte l'eau et qui la répand, c'est l'Évangile. Aussitôt que le premier a commencé à balayer, vous avez vu que la poussière a volé si fort que vous en avez été presque suffoqué. C'est pour vous montrer que la loi, bien loin d'ôter le péché du cœur par ses œuvres, ne sert qu'à le faire connaître, vu contraire. Vous avez vu la jeune fille arroser la chambre avec de l'eau, abattre la poussière et nettoyer la chambre parfaitement. C'est pour vous faire voir que quand l'Évangile répand dans un cœur ses douces influences, alors le péché est vaincu et abattu. L'âme, par la foi, devient pure et propre à être la demeure du roi de gloire. De cette chambre, ils passèrent dans une autre, où étaient deux jeunes gens assis, chacun sur une chaise. Le nom du plus âgé était Passion, et celui du second, Patience. Le premier paraissait fort mécontent, mais le second était tranquille. Chrétien demanda quelle était la raison du mécontentement de Passion. L'interprète lui répondit, « C'est que la personne qui en prend soin voudrait qu'il réservât la meilleure portion de son bien jusqu'au commencement de l'année prochaine. Lui, au contraire, veut avoir le tout présentement, au lieu que Patience consente à attendre. » Alors quelqu'un apporta à Passion un sac plein d'or et le mit à ses pieds. Passion le prit, étant fort aise, et il riait avec mépris de Patience de ce qu'il n'en avait pas autant. Mais je vis qu'en fort peu de temps, il avait dépensé le tout comme un insensé, et qu'il ne lui en restait que le chagrin. Chrétien dit à l'interprète, « Je vous prie de m'expliquer ceci davantage. » Et l'interprète lui dit, « Ces deux jeunes gens sont des figures. Passion est celle des hommes mondains, et patience, celle des gens sages qui attendent les biens à venir. Vous voyez que passion a la jouissance de son bien cette année, c'est-à-dire dans cette vie. Et tels sont les mondains. Ils veulent avoir tout leur bien présentement. Ils ne peuvent attendre à l'année prochaine qui est l'autre vie. » Ce proverbe, « Un oiseau dans la main vaut mieux que deux dans un buisson » est d'une plus grande autorité pour eux que tous les divins témoignages des biens du monde à venir. Aussi vous avez vu que passion a tout dépensé en peu de temps, et qu'il ne lui en reste que les regrets et le désespoir. Quand ce monde-ci finira, il en sera de même des hommes qui l'auront imité. « Je conçois, dit Chrétien, que Patience a pris le parti le plus sage, d'abord parce qu'il attend des biens infiniment meilleurs, et de plus parce qu'il en jouira, tandis que l'autre n'aura que le désespoir. « Vous pouvez, dit l'interprète, ajouter encore que la gloire du siècle à venir ne finira jamais, au lieu que les biens du monde présent ne sont d'aucune utilité et sont perdus pour toujours. C'est ce qui a été dit aux mauvais riches. Vous avez reçu les biens pendant votre vie, et Lazare les maux. Présentement, il est dans la gloire, et vous dans les tourments. « Je comprends, dit Chrétien, que le parti le meilleur n'est pas de désirer les biens de cette vie, mais d'attendre et de vivre pour les biens à venir. » Après être sorti de cette chambre, l'interprète conduisit Chrétien dans une autre forte obscure, où était un homme renfermé dans une cage de fer. Cet homme paraissait dans le plus grand accablement. Ses yeux étaient fixés vers la terre. Il tenait ses mains jointes ensemble, et il soupirait, comme si son cœur eût été prêt à se fendre. « Que veut dire ce que je vois ? » dit Chrétien. « Demandez-le à cet homme, » dit l'interprète. « Qui êtes-vous ? » « Je suis, » répondit-il, « ce que je n'étais pas autrefois. » « Et qu'étiez-vous ? » J'étais autrefois un philosophe brillant et d'un mérite éclatant, soit à mes propres yeux, soit à ceux des autres. Je me croyais même propre pour la cité céleste et me réjouissais de penser que je pourrais y entrer. Eh bien, qu'êtes-vous donc présentement ? Ah, je suis un homme de désespoir. Mon sort est de demeurer dans cet état, ainsi que dans cette cage de fer. Je ne puis en sortir, hélas. Maintenant, la chose m'est impossible. Mais comment vous êtes-vous jeté dans cet état ? J'ai discontinué d'être sobre et de veiller. J'ai lâché les rênes à la concupiscence. J'ai péché contre les lumières de la parole et contre la bonté de Dieu. J'ai maltraité l'Esprit-Saint, et il s'est retiré. Je méprisais le démon, et il est venu à moi. J'ai provoqué et irrité Dieu, et il s'est éloigné. Le plus fâcheux de mon état, c'est que je me suis si fort endurci le cœur que je ne puis me repentir. Là-dessus, Chrétien demanda à l'interprète, « Est-ce qu'il n'y a plus d'espérance pour cet homme ?»« Interrogez-le lui-même, » dit l'interprète. Chrétien demanda donc à cet homme, « Est-ce qu'il n'y a plus d'espérance pour vous ? Et devez-vous être pour toujours dans la cage du désespoir ?»« Non, non, il n'y a plus pour moi aucune espérance. »« Mais pourquoi ? Le Fils de Dieu n'est-il pas rempli de miséricorde ?»« Je l'ai crucifié de nouveau en moi-même. » J'ai haï et méprisé sa personne et la pureté de sa doctrine. J'ai regardé son sang comme une chose vile. J'ai rebuté l'esprit de grâce. Je me suis fermé la porte à toutes les promesses, et il ne me reste présentement que des menaces terribles, menaces épouvantables d'un certain jugement et d'une indignation redoutable qui me traitera comme un ennemi. Et pourquoi vous êtes remis dans un tel état ? Pour la concupiscence, pour les plaisirs et les joies de ce monde, dans la jouissance desquelles je me promettais un grand bonheur. Mais maintenant, chacune de ces choses me paraît pleine d'amertume et me ronge comme un ver dévorant. Quoi ? Ne pouvez-vous pas venir à repentance et prendre de meilleures voies ? Dieu m'a retiré ses moyens. Sa parole ne me donne pas lieu de l'espérer. Lui-même m'a renfermé dans cette cage de fer, et tous les hommes du monde ne seraient pas capables de m'en délivrer. Ô éternité, comment ai-je pu me laisser surprendre à de pareilles misères qui doivent me causer un malheur sans fin? Alors l'interprète dit à Chrétien, « Souvenez-vous du triste état de cet homme, et qu'il soit pour vous un exemple que vous ne perdiez jamais de vue. » « Hélas, dit Chrétien, sa situation est bien terrible. Daigne le ciel m'aider à prier, à veiller et à être sobre pour que je puisse éviter le sort de cet infortuné. Mais monsieur, n'est-il pas temps pour moi de reprendre mon chemin ? Arrêtez, je ne veux plus vous montrer qu'une seule chose, et ensuite, vous continuerez votre route. » L'interprète prit donc encore Chrétien par la main et le conduisit dans une chambre où quelqu'un sortait du lit. Cette personne ayant pris ses vêtements, parut saisie d'un tremblement violent et d'une agitation singulière. « Quel est le sujet ? Dit Chrétien, qui fait ainsi trembler cet homme. » L'interprète dit à cet homme de raconter lui-même ce qui lui donnait tant de frayeur, et il commença ainsi. « Cette nuit, quelque temps après que le sommeil se fût emparé de moi, j'eus un songe. Je crus voir le ciel s'obscurcir. Les éclairs se succédaient d'une manière si effrayante, et le tonnerre faisait entendre un bruit si terrible que je tombai presque mort. Dans cet état, je regardai en haut, et je vis les nuages agités de la manière la plus extraordinaire. Au même moment, le son éclatant d'une trompette frappa mon oreille, et j'aperçus un homme majestueux qui descendait assis sur un nuage. Il était suivi de milliers d'anges, tous resplendissants de lumière, et les cieux eux-mêmes paraissaient tout en feu. Une voix alors se fit entendre, qui disait « Levez-vous, morts, et venez au jugement !» À ces paroles, les rochers se fendirent avec grand bruit, les tombeaux s'ouvrirent, et les morts qui y étaient enfermés se levèrent et en sortirent. Quelques-uns d'eux paraissaient remplis de joie et portaient leurs regards vers le ciel, mais d'autres cherchaient à se cacher et auraient voulu que les montagnes eussent pu les couvrir. Alors l'homme qui était assis sur les nuages ouvrit un livre et commanda à tous les hommes de s'approcher, ce qu'ils firent. Une barrière toute de feu mettait une certaine distance entre eux et lui, comme nous le voyons à la barre entre le juge et le criminel. Et j'entendis l'homme assis sur le nuage donner cet ordre à ceux qui le suivaient. « Rassemblez l'ivraie, la paille et le chaume, et jetez-les dans le lac brûlant. » À ces mots, un abîme sans fond s'ouvrit près de l'endroit où j'étais, d'où il sortait des flammes, de la fumée, des charbons ardents, avec un bruit horrible. L'homme dit ensuite, « Rassemblez le bon grain, et mettez-le dans le grenier. » Là-dessus, je vis un certain nombre de tous sexes, qui furent enlevés dans les nuées, mais je fus laissé derrière. L'idée me vint de me cacher, mais je ne le pouvais pas, car l'homme qui était sur le nuage avait toujours les yeux sur moi. Mes péchés me revinrent alors dans l'esprit, et ma conscience m'accusait de toutes parts. Je fus tellement frappé de terreur que je m'éveillai, et mon songe me quitta. Pourquoi cette vue vous avait-elle si fort effrayé? Parce que je pensais que le jour du jugement était arrivé et que je n'y étais pas préparé. Ce qui m'avait surtout rempli d'effroi, c'est que les anges en avaient pris plusieurs, et que moi j'avais été laissé en arrière. De plus, c'est que je voyais l'abîme de l'enfer qui s'était ouvert tout près de moi. Le juge me fixait de ses regards, montrant de l'indignation dans sa contenance. Or, ma conscience me reprochant mille fautes, j'avais lieu de craindre le sort le plus funeste. « Avez-vous, dit l'interprète à Chrétien, considéré toutes ces choses avec attention ? » ?»« Oui, et elles me remplissent d'espérance et de crainte. » »« Eh bien, conservez-les dans votre esprit, et qu'elles puissent être un puissant aiguillon pour vous encourager dans la carrière où vous allez. » Pour lors, Chrétien commença à se cindre les reins, et à se disposer pour son voyage. Et l'interprète lui dit, « Que le confortateur soit avec vous, bon Chrétien, pour vous guider dans le chemin qui mène à la cité. » Chrétien, après l'avoir remercié de toutes ses bontés, partit. Je vis dans mon songe que le chemin par lequel Chrétien allait était fermé d'un côté par une muraille qui se nommait Salvation. Chrétien avançait dans cette route, non sans beaucoup de peine, à cause du poids dont il était chargé. Néanmoins,
allant tout aussi vite qu'il le pouvait, il parvint à un endroit escarpé où se trouvait une piscine. L'eau en était claire et pure, et Chrétien eut envie de s'y laver. Mais son enceinte était bordée d'une haie de ronces et d'épines. Il n'y avait qu'un passage pour y descendre, et ce passage était gardé par une personne nommée Répugnant, qui lui faisait signe de s'éloigner. Chrétien, cependant, qui jetait les yeux sur lui-même et qui se voyait rempli de souillures, désirait de se purifier. Il était dans le plus grand embarras lorsqu'un personnage nommé Repentir survint, qui, ayant regardé Répugnant d'un air d'autorité, lui ordonna de laisser le passage libre et le fit retirer. Chrétien alors descendit dans l'eau, et à mesure qu'il s'y lavait, il ressentait un soulagement et un bien-être qu'il n'avait pas encore éprouvé. Aussi, au sortir de cette piscine, son fardeau lui parut beaucoup plus léger, et continuant sa route avec plus de vigueur, il gagna le sommet de la montagne. Dans cet endroit était une croix, et un peu plus bas, dans le fond, un sépulcre. Chrétien, à la vue de cette croix, éprouva ce doux sentiment dont un malade est affecté lorsque son médecin lui annonce sa guérison. Il connut que c'était à cette croix qu'il pouvait être redevable de sa délivrance, et se prosternant devant elle, il l'adora. Aussitôt, ô bonté admirable de notre Sauveur, ô amour ineffable de notre Dieu, son fardeau se détacha de ses épaules et roula jusqu'à l'ouverture du sépulcre dans lequel il tomba et ne reparut plus. Dans ce moment, Chrétien, plein de joie, s'écria « Il m'a donné le repos par ses souffrances, et c'est par sa mort que je trouve la vie. » Tout hors de lui, il regardait la croix avec admiration, car il lui paraissait bien surprenant que sa vue l'eût ainsi soulagé de son fardeau. Pendant qu'il la contemplait avec un attendrissement qui lui faisait verser des larmes, trois anges l'abordèrent et le saluèrent en lui disant « Que la paix soit avec vous !» Le premier lui dit « Vos péchés sont oubliés !» Le second le dépouilla de ses haillons et le revêtit d'habits tout neufs. Le troisième le marqua au front et lui donna un papier auquel un sceau était attaché. Il lui recommanda de jeter les yeux sur ce papier lorsqu'il serait en route et qu'il le donnerait lorsqu'il serait arrivé à la porte céleste. Alors Chrétien, tout transporté, se mit à chanter « J'étais venu chargé de mes iniquités, et je ne pouvais soulager la peine que j'endurais, jusqu'à ce que je fusse parvenu en cet endroit. Quel est-il donc, et quel est son pouvoir? C'est bien ici le commencement de mon bonheur, puisque je ne me trouve plus avec mon fardeau. C'est ici que les liens qui m'attachaient ont été rompus. Heureuse croix, heureux sépulcre, que béni soit celui qui s'est chargé de ma honte pour me sauver !» Chrétien, étant ainsi soulagé et comblé de joie, reprit sa route. Quand il rencontrait quelque mauvais pas, il jetait les yeux sur le papier qui lui avait été donné et reprenait de nouvelles forces. Enfin, il parvint à une montagne qui se nommait le Mont Difficulté et où l'on trouvait une source d'eau pure. Il y avait aussi dans le même endroit que le chemin étroit qui menait à la porte, deux autres chemins, dont l'un tournait à droite et l'autre à gauche. Mais le chemin étroit conduisait directement au haut de la montagne et se nommait la voie laborieuse. Chrétien se dit « Allons, mon âme, courage, et ne crains point. Il vaut mieux aller par ce droit chemin, quoique plein de difficultés, puisqu'il conduit à la vie, que de prendre ce chemin tortueux, quoique aisé, puisqu'il se termine par le malheur. » Et ayant bu à la source et s'y étant rafraîchi, il commença à monter. Il y avait de temps à autre des endroits très escarpés, où quelquefois le pied lui manquait. Alors il cédait des mains et des genoux pour grimper et pour surmonter l'extrême roideur. Après bien des efforts, Chrétien parvint au milieu de la montagne, où se trouvait un bel arbre planté par le maître de l'endroit pour rafraîchir les voyageurs fatigués. Chrétien s'y assit pour se reposer et tira son papier de son sein pour y lire. Mais au lieu d'y lire, il ne put se défendre de jeter les yeux sur l'habit qui lui avait été donné lorsqu'il était au pied de la croix, et de se regarder avec complaisance, comparant cet habit avec celui qu'il portait auparavant. Pendant qu'il se livrait à cette idée, il tomba dans un assoupissement, et de là dans un profond sommeil qui le retint dans cet endroit. Et pendant qu'il dormait, son papier s'échappa de ses mains. Comme il dormait, quelqu'un vint à lui et l'éveilla en lui disant « Paresseux, allez à la fourmi, considérez ce qu'elle fait et soyez sage. » Chrétien s'éveilla, et s'étant levé, il reprit sa route. Pendant qu'il gagnait le haut de la montagne, il rencontra deux hommes qui s'en retournaient fort vite. L'un se nommait Craintif, et l'autre Défiant. « Messieurs, leur dit Chrétien, pourquoi quittez-vous votre route ?» Craintif répondit, « Nous allions à la cité de Sion, et nous avions déjà gagné cet endroit difficile, mais plus loin on trouve plus de dangers, c'est pourquoi nous nous en retournons. » « Oui, dit Défiant, précisément devant nous étaient deux lions dans le chemin. S'ils étaient endormis ou éveillés, nous l'ignorons. Mais nous avons pensé que si nous nous mettions à leur portée, ils pourraient nous mettre en pièces. » Chrétien leur dit, « Vous m'effrayez, mais je ne sais où aller. Si je retourne dans mon pays, qui doit être la proie des flammes, certainement j'y périrai. Si je puis gagner la cité céleste, je suis sûr d'y être sauvé. En m'en retournant, il n'y a pour moi que la mort. En avançant, je puis bien craindre aussi de périr, mais au-delà est la vie éternelle. Je suis donc déterminé à poursuivre ma route. » Ainsi, Défiant et Craintif descendirent la montagne, et Chrétien continua son chemin. En marchant, ce qu'il avait entendu de ces deux hommes lui revint dans l'esprit. Il chercha son papier dans son sein pour y lire et y prendre des lumières, mais ce fut en vain. Et il ne le trouva point. Il se vit pour lors dans la plus grande détresse, et ne sachant que devenir, car il manquait de ce qui avait coutume de le rassurer et de le fortifier. De plus, c'était son passeport pour la cité céleste. Il était donc dans le plus grand embarras. À la fin, il fit réflexion qu'il avait dormi sous l'arbre qui était au milieu de la montagne, et tombant sur ses genoux, il demanda pardon à Dieu de sa folie, et retourna tout de suite sur ses pas pour chercher son papier. Pendant sa marche, Chrétien avait le cœur rempli de tristesse. Il soupirait avec sanglots et se reprochait à lui-même d'avoir été assez insensé pour s'endormir dans un endroit qui n'était fait que pour le remettre un peu de sa fatigue. À mesure qu'il avançait, il cherchait soigneusement de tous côtés pour tâcher d'apercevoir le papier qui tant de fois l'avait fortifié dans son voyage. Il vint ainsi à la vue de l'arbre sous lequel il s'était assis et endormi. Mais cette vue ne fit qu'augmenter sa douleur, en pensant au malheur qu'il y avait éprouvé. Étant parvenu à l'arbre, il regardait à droite et à gauche, ayant le cœur rempli d'amertume. Enfin, la Providence permit qu'il découvrît son papier. Qui pourrait exprimer ce que Chrétien ressentit dans cet heureux moment ? Il se jeta dessus avec précipitation, il le prit tout tremblant et le mit soigneusement dans son sein. Car c'était toute l'espérance de sa vie et ce qui pouvait le faire recevoir au port désiré. Après l'avoir serré, il rendit grâce à Dieu qui avait conduit ses yeux dans l'endroit où il était caché et reprit son chemin avec une joie mêlée de larmes. Le reste de la montagne ne lui coûta rien tant il était satisfait. Cependant, avant qu'il en eût gagné le haut, le soleil vint à baisser, ce qui lui rappela le tort que son sommeil lui avait fait, et il se disait à lui-même, « Oh, malheureux sommeil, faut-il que par rapport à toi, la nuit me surprenne dans ma route ? N'étant plus éclairé par le soleil, l'obscurité peut me cacher le sentier, et je puis rencontrer des animaux malfaisants. » Néanmoins, il continua sa route, et tandis qu'il se plaignait de son malheureux sort, il leva les yeux et aperçut, devant lui, un magnifique château, dont le nom était Palais de Beauté, et qui répondait précisément à son chemin. Fin de la troisième partie. Enregistrée par Ezoa, en Belgique, en juin 2008.
Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at cenovus.com.